Bienvenue sur RTL l'équipe pour Carrément Tennis, votre émission consacrée à la petite balle jaune, une heure durant comme tous les jeudis. Nous reviendrons bien sûr longuement sur la décision de la Fédération française de tennis de conserver Roland Garros, porte d'Auteuil. La tradition a primé sur le gigantisme. Alors bon ou mauvais choix, vous allez voir, les avis sont extrêmement partagés sur cette décision. En tout cas, elle est irrévocable et elle a été votée à plus de 70% par les élus de la Fédération française de tennis. Explication et décryptage ce matin dans Carrément Tennis. Nous prendrons également la direction de Marseille où se déroule l'Open 13 avec Joe Wilfried Tsonga. En quart de finale, il affrontera peut-être Gilles Simon ou Mireille Yuzny en quart de finale du côté de Marseille. Une nouvelle également, puisque Ricardo Piatti, le coach d'Ivan Ljubicic, qui lui aussi est engagé dans ce tournoi, eh bien, est devenu officiellement le deuxième entraîneur de Richard Gasquet. Il fera un trio avec Sébastien Grosjean. Nous vous expliquerons tout ça tout à l'heure dans Carrément Tennis. Nous reviendrons également, bien sûr, sur la finale de Joe Wilfried Tsonga à Rotterdam la semaine dernière, battu seulement par Robin Söderling, qui a conservé son titre aux Pays-Bas. Du côté du tennis féminin, Kim Clijsters, malgré sa défaite en finale de l'Open Gaz de France GDF Suez face à Kvitova, dont on reparlera, elle sera bien sûr dans le top 10 très bientôt, cette jeune tchèque, et bien Kim Clijsters a repris la place de numéro 1 mondial à Caroline Wozniacki. Mais la réponse peut-être de la Danoise dès cette semaine au tournoi de Dubaï, où Marion Bartoli s'est qualifiée pour le troisième tour, parce que la Danoise peut récupérer à nouveau sa place de numéro 1 mondial.
Like RTL l'équipe, Carrément Tennis.
Les semaines passent, il est de plus en plus affûté, son retour sur le circuit se précise. Messieurs, dames, attention, Julien Varlet, bonjour.
Bonjour à tous.
Je vous trouve super fit.
J'essaye.
Eh, ça y va l'entraînement.
Ah oui, effectivement, et j'ai joué toute la semaine.
Coupe de cheveux d'été aussi.
Ouais, bah il faut s'affûter.
Le bronzage et tout, ça y est.
Bronzage,
il est en petit short sur les cours, là, dès qu'il y a trois rayons de soleil, ça y va, hein. Elle aussi, elle est fit quand même, hein, semaine après semaine. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Salut, moi, chère Émilie Loire.
Salut à tous.
Tout va bien ?
Tout va super bien.
Alors, Guillaume Laniel vient de me glisser à l'instant qu'il y a un quatrième report consécutif pour le slalom géant de Garmisch au championnat du monde de ski, et que donc le début n'est pas programmé avant midi. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'on veut pas vous faire vivre le géant avec Tessa Worley, c'est juste que pour l'instant, il ne démarre pas, ce géant. Alors on va rester sur l'actualité tennis. Myrtille Rambion, elle aussi, a sorti son petit t-shirt. C'est l'été, il y a du soleil. Pourtant, il va faire froid. Attention les jours prochains, les filles. Hein. Ne vous découvrez pas trop vite. Ah. Salut Myrtille.
Salut, mais il fait beau aujourd'hui.
Aujourd'hui, il fait beau. Vous avez sorti le t-shirt.
Grave.
Il doit être en t-shirt sur sa terrasse de Cognac G, un peu loin de nous. Vous savez, c'est les stars maintenant. Comme ça, il a un bureau panoramique sur tout Paris.
Il a passé la Seine surtout.
Orange Juice de l'autre côté de la Seine. Salut mon cher Benoît Mélin.
Salut, je domine Paris de ma terrasse panoramique.
Est-ce que vous voyez la porte d'Auteuil ?
Non.
Ah. Est-ce que vous voyez Versailles ou Marne-la-Vallée ?
Non.
Ah. Bon, il faut demander un déménagement alors, hein.
On est bien d'accord.
Et plutôt près des portes d'Auteuil, de la porte d'Auteuil, car c'est l'info de la semaine quand même, on va y revenir, messieurs, dames. C'est Roland Garros qui reste à Paris. Voilà, la tradition a primé sur le gigantisme, on entendra tout à l'heure Jean Gachassin, le président de la Fédération française. On s'attendait peut-être à un faux vote ce week-end qui allait repousser l'échéance, et puis finalement non, à plus de 70%, il en fallait 66,6. Eh bien, les élus de la Fédération française de tennis ont décidé de conserver Roland Garros à Paris. Je viens voir les premières réactions comme ça avant qu'on rentre dans les détails de ce dossier.
Bah, c'est vrai que ça fait toujours plaisir que Roland reste à Auteuil, parce que voilà, alors après c'est sûr que le discours peut être différent, mais l'histoire est à porte d'Auteuil, et je trouve ça bien. Maintenant, voilà, avant de rentrer vraiment dans les détails, pour en avoir parlé avec des gens de la fédération, c'est pas gagné quand même.
C'est pas gagné. Émilie Loire, votre première réaction, vous en tant qu'ancienne joueuse qui avait foulé ses cours de Roland-Garros ?
L'histoire effectivement à la porte d'Auteuil, mais en termes d'ambition et d'avenir, c'était de partir à Versailles. Enfin, pour moi, après je connais pas tous les détails du dossier, mais si on avait été ambitieux, on serait parti. Là, effectivement, bon, ce que les élus disent, c'est que c'est plus la qualité plutôt que la quantité, entre guillemets. Oui, effectivement, on va pas dire le contraire, parce que de toute façon, c'est pas très grand.
Versailles, on y reviendra d'ailleurs, qui a été éliminé dès le deuxième tour, d'ailleurs, qui n'était même pas finaliste face à Paris, mais ça, il y a des explications politiques.
Tu crois vraiment au vote, là ?
Ouais, c'est ça, il y a des explications politiques.
Tout le monde parle de Versailles, mais Marne-la-Vallée a terminé deuxième.
Attendez, on entrera dans le détail, mais Marne-la-Vallée avait un dossier bien meilleur. Bien meilleur que Versailles en termes d'infrastructure et Versailles faisabilité. Enfin bon, une réaction si je puis me permettre.
Bien sûr.
Tout ça pour ça.
C'est clair.
Tout ça pour ça.
Deux ans de tergiversation.
Non, mais attendez, on peut se demander quand même si depuis le début, le but du jeu, le but ultime, n'était pas juste de bouger la mairie de Paris, auquel cas, chapeau, c'est réussi.
Alors, ça, c'est peut-être vrai, mais j'ai quand même l'impression, Benoît Mélin, donnez-moi votre point de vue, que tout ça s'est fait quand même à la dernière minute, en tout cas pour la mairie de Paris, parce que si le vote a été aussi un plébiscite autant pour Paris, c'est aussi parce que la mairie de Paris a fait de grosses concessions, mais dans les toutes dernières minutes, j'ai envie de dire, tout dernier jour, et notamment la concession pour 99 ans et non pas une revoyure après 25 ans, la concession définitive également pour le CNE du stade
Hébert.
Donc tout ça s'est fait à la dernière minute quand même.
Non, ça s'est pas fait à la dernière minute, hein. C'était sur les papiers déjà ça.
Ah, pas par exemple la cession sur 99 ans, il y avait normalement une clause de revoyure à 25 ans.
La cession sur 99 ans, ça fait, je crois que ça faisait un mois et demi que c'était déjà négocié avec la mairie de Paris. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec Myrtille, c'est de la pipe totale cette histoire, c'est une pipe totale. C'est, on nous a pris pour des cons, on a surtout pris les cabinets d'architectes qui ont bossé pour Marne-la-Vallée, Versailles, Gonesse pour des cons. Tout ça n'est fait que pour rester à Paris, c'est une évidence, et pour payer le moins de choses possible à la mairie de Paris.
Ouais, mais j'ai envie de vous dire, c'est bien joué.
Je suis d'accord avec vous. Ouais, mais combien a déboursé quand même Marne-la-Vallée pour cette campagne? Je me souviens plus du montant.
Mais attends,
mais
ça c'est le jeu, hein, ça c'est le jeu. Il y a un appel
d'offres.
Ils jouent
quand même avec les gens, ils savent très bien. Attends, depuis le début, tout le monde a envie de rester à Paris.
Bah ouais, mais les autres le savent aussi.
C'est sûr.
Hein.
Je sais pas, pour avoir discuté. Je tairai son nom avec des personnes de la fédération jusqu'à 5, il y a même 10 jours grand maximum, eux étaient vraiment pour Marne-la-Vallée et sachant que pour Versailles, même si Versailles pourtant est même pas passé au deuxième tour, donc c'est assez particulier. Après, ces personnes de la fédé disent qu'ils veulent, ils sont restés à Roland-Garros parce qu'ils voulaient aussi entre guillemets pas faire comme les autres, genre l'US Open ou Melbourne, se délocaliser, rester dans un endroit, dans ce site. Mais bon, après, voilà. Mais sincèrement...
Ça, c'est des boutades.
Non, mais après, moi, sincèrement, c'est vraiment pas fait, hein, le truc. Hein, parce que
alors,
il faut réorganiser tout le stade et tout ça.
Alors, c'est un élargissement...
François Dardier, là, attention.
C'est un élargissement de 8,5 hectares, la superficie actuelle, à 13,5, qui serait donc à peine 0,5 de moins que l'US Open. Mais l'US Open a déjà prévu d'agrandir dans les prochaines années. Écoutez quand même la justification officielle de la présidence de la Fédération Française de Tennis, au travers de la voix, bien sûr, de Jean Gachassin, qui veut parler justement de ce qualitatif, de cet esprit, de cet écrin qu'est Roland-Garros, même si c'est différent des autres grands chelems.
C'est un choix historique. Nous avons opté, je crois, pour un choix audacieux, osé, hautement qualitatif, et stratégique, à contre-courant du gigantisme à la mode. Roland-Garros a une image forte, unique et un rayonnement mondial parce que nous sommes à Paris. Je ne peux que vibrer à l'idée de ce nouveau Roland-Garros avec un central ultra-moderne, couvert d'un toit et permettant des sessions de soirée.
Voilà, Jean Gachassin au micro de Sylvain Charlet lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Tennis. C'était dimanche dernier. Alors concrètement, pour ceux qui n'ont pas vu le détail du projet, on va expliquer donc élargissement à 13,5 hectares. Roland-Garros restera, quoi qu'il arrive, le plus petit des quatre grands chelems, puisque vers Melbourne et Wimbledon, on est aux alentours de 20 hectares et que l'US Open est à 14, mais il va prochainement s'agrandir. Un toit rétractable.
Et attends, Eric, et Flushing Meadows peut s'agrandir comme ils veulent sur des milliers d'hectares.
C'est clair. Voilà.
Oui, ils vont en gagner quelques-uns, ils vont pas non plus en gagner.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a rien autour.
Et ils vont couvrir trois cours.
Et ils vont couvrir trois. Alors, sachant que si on avait choisi, ou s'ils avaient choisi, les élus de la fédération Marne-la-Vallée ou Versailles, Roland-Garros aurait été le plus grand tournoi du Grand Chelem du monde, puisqu'on était sur 30-35 hectares en fonction des dossiers. Voilà. Là, le but donc est de couvrir le central. Alors, couvrir avec possibilité de faire des matchs nocturnes, ça aussi c'était une interrogation. Au départ c'était simplement une couverture pluie, là ce sera quand même une couverture pour faire des matchs nocturnes, mais pas pour pouvoir délocaliser par exemple Bercy au mois d'octobre-novembre, parce qu'il y aura une ouverture sur l'extérieur, donc il fera trop froid et trop humide. Donc c'est un compromis, on va dire.
Je suis pas d'accord.
Non ?
Non.
Pourquoi ?
C'est pas ça qui est prévu dans le plan du renouveau de Roland-Garros. Ce qui est prévu sur le court Philippe Châtrier, c'est un toit léger qui protégera d'averses, mais qui ne pourra en aucun cas permettre l'organisation d'événements comme Bercy ou comme des concerts ou des trucs comme
ça. C'est ce que je viens de dire.
Si jamais on part sur la construction d'un toit qui permette ce genre de choses, c'est un tout autre objet.
Non, mais c'est pas ce que j'ai dit.
Toute autre autorisation pour les riverains.
Benoît, vous n'écoutez pas.
Mais oui. Ah bon.
J'ai dit en effet qu'il restera une ouverture sur l'extérieur, donc on ne pourra pas organiser ce genre d'événement, concert ou Bercy, mais qu'on pourra quand même faire des sessions nocturnes, ce qui au départ n'était pas forcément envisagé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un compromis, Julien Varlet.
Oui, non, mais c'est exactement ça. Mais après, moi, ce qui m'inquiète, mais c'est la réorganisation totale du stade. Sachant que chaque année, il va y avoir Roland, ça va être un
bazar.
Alors,
le 1 disparaît, le cours La Reine, ouais, construit en 1980, qui est quand même aussi un peu l'identité de Roland, non? Enfin,
ouais,
je sais pas,
ouais,
le cours numéro
1.
Le 2 et 3 aussi.
Il est très décrié en même
le
temps,
2 et 3 partent.
En fait, le 2 et 3, il n'y aura plus qu'un cours à la place d'avoir un 2, un 3. Le 6, 7, 8, qui sont juste à côté du 1, ça va être carrément un village pour les VIP. Les cours qui sont devant le CNE, donc entre le Langlaine et le Châtrier, vont être redisposés. Il n'y aura que 4 shows courtes.
Il y avait le fameux cours 7 là, ouais, qui réussissait bien en français.
Tu es en train d'enlever plein de cours, ils sont partout, les cours là.
Mais en fait, et après, donc derrière Lucien Langlaine, on aura de nouveau d'autres cours.
D'accord.
Voilà. Sachant que dans les serres d'Auteuil, qui sont donc au-delà du stade de Roland-Garros, derrière le cours numéro 1, là on devrait construire un nouveau cours de 5000 places, mais c'est là aussi où il y a les histoires de riverains, des 30 000 signatures. Ils ont promis la guerre, les associations écologiques.
Dire qu'ils sont au
mais
taquet,
bon,
hein.
Ce qui rapporte, bien évidemment, c'est le tournoi de Roland-Garros. C'est pas les jeunes que la fédération va entraîner, mais je sais pas, le centre national d'entraînement, il se passe quoi là?
Alors, il va à Hébert, à 500 mètres, il va un peu plus loin.
T'as vu le plan d'Hébert?
Côté du supermarché, là.
Ouais, mais bon, ça a rien à voir avec Roland-Garros, quelque part, le CNE.
Bah, c'est censé aller avec, normalement.
Oui, enfin, mais pendant le tournoi, voilà, il est réquisitionné.
Ouais, mais
y a
par
pas
exemple,
de...
vous prenez Flushing Meadows et des endroits comme ça, ils ont construit des centres nationaux d'entraînement absolument incroyables là-bas. Non, mais qu'on soit d'accord, nous tous, à titre personnel, on est super contents que Roland-Garros reste à Roland-Garros.
C'est à côté.
Maintenant, on peut quand même s'interroger sur le côté visionnaire ou pas de...
Oui,
on doit l'avoir. Hein. Quant au nocturne qui n'était pas prévu, alors attendez, moi je n'y crois pas un instant. Dans le sens où à partir du moment où on met un toit, c'est comme à Wimbledon, on nous dit pas de nocturne. On a vu ce que ça donne. Bien sûr que le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au nocturne. Et là, je suis assez surprise. D'ailleurs, tant mieux hein, si on peut voir des nocturnes à Roland-Garros finalement. Mais je croyais qu'on pouvait pas avec l'humidité du bois. Puis là, on nous dit que non finalement parce
avec
que
la,
ça,
chaleur,
la
humaine,
chaleur des gens, ça compenserait.
Ouais, enfin, encore faut-il que les gens restent dans les tribunes pour les sessions nocturnes.
Moi, je suis pour les nocturnes, mais j'ai du mal à imaginer une terre intérieure, quoi.
Moi, je suis contre.
Ça change complètement, c'est plus le même tennis du tout.
Ça devient un espèce de terre balle avec une terre plus rapide, c'est plus du tout.
Juste une précision tout de même sur ce nouveau toit, entre guillemets, choisi pour pouvoir faire également des sessions nocturnes. Ça nécessite quand même un réaménagement du central et une montée jusqu'à 31 mètres avec le toit, ce qui oblige de revoir le plan d'urbanisme. Donc tout ça n'est pas gagné.
Ah, c'est pas fait,
voilà.
Ah, non.
C'est-à-dire que pour faire le toit comme ils veulent, il faut monter à 31 mètres et il faut l'accord, enfin, il faut que le plan d'urbanisme suive.
J'ai vraiment le sentiment qu'ils l'ont fait trop tard, le vote. Parce que le problème après sur Versailles, c'était qu'à la limite, Versailles pouvait pas.
Oui, parce qu'il y avait les terrains militaires
livrer,
qui ne seront peut-être
livrer,
pas disponibles.
En heure et en temps, mais c'est un peu pour Roland-Garros, enfin, Porte d'Auteuil, ça va être un peu la même chose.
Non, mais surtout, faut pas oublier que, bon, même si c'est Wimbledon ont mis un toit, voilà, ils ont fait les travaux par étapes. Là, ça va être encore pire parce que c'est, comme je le disais, c'est vraiment réorganisation totale du stade. Et pendant le tournoi, ça va être quelque chose, quoi.
Est-ce qu'on a manqué d'ambition, Benoît Mélin, ou est-ce qu'au contraire, on est les petits résistants, les petits Gaulois, et que quelque part, on garde l'identité de Roland-Garros, ce parfum d'histoire, de tradition? Tant pis si on est plus petit, c'est pas uniquement l'économie, même s'il y aura quand même 30% de spectateurs en plus. Tiens, petite parenthèse, on a appris quand même, et ça, j'ai trouvé ça incroyable, car Roland-Garros, ces dernières années, on a fait rentrer plus de monde que ne l'autorisait la loi. Enfin, on s'en doutait un peu, mais.
On s'en doutait un peu.
Là, on le dit officiellement quand même.
Je comprends pas qu'on le dise, mais enfin bon.
C'est oui, voilà.
Pourquoi l'ont dit? Tout quelque part, c'est
en
un
gros,
peu de bonne guerre.
Pour montrer en plus que c'était trop petit. Donc il y a encore pression sur la mairie de Paris.
Alors, Benoît, est-ce que le fait que Roland-Garros demeure un tournoi à part, voilà, qui n'a pas complètement répondu aux sirènes de l'argent, même si on sait que tout ça est quand même un peu de blabla, est-ce que quelque part c'est pas l'identité française?
Bah ouais, non, mais moi, oui, pourquoi pas, ça me déplaît pas. Après, ça va être super exigu, quoi.
On passe quand même de 8,5 à 14, attendez.
Mais non, mais tu sais, on est très européens dans ces projets d'avenir. C'est-à-dire que les Européens ne pensent qu'à moyen terme. C'est-à-dire qu'on voit, allez, on visualise à 5 ans, pas plus. Il faut savoir que les Japonais, quand ils prévoient quelque chose, eux, ils visualisent à 35 ans. Donc automatiquement, si tu veux, quand ils partent sur des constructions, sur des évolutions de quelque chose, c'est vraiment pour aller très très loin. Nous, comme tu dis, on est très gaulois. Donc on est là, dans notre petit village d'irréductible avec Panoramix et Ordre Alphabétix, là, et voilà, ils veulent pas bouger. Moi, ça me dérange pas. Effectivement, c'est Roland-Garros, Porte d'Auteuil, on est à Paris, c'est très bien pour nous. Mais je vois pas, il y a tellement de problèmes
sur ce truc qui normalement devrait être rendu très rapidement, hein, puisqu'en 2015 tout ça devrait être fait, hein. Je vois pas du tout comment c'est possible. Il n'y a que des emmerdes. Il va y avoir que des emmerdes. Comme tu l'as dit, ce toit surélevé, c'est pas possible, ça passera jamais. Parce que autant à Wimbledon, on ne modifie pas la structure paysagère, c'est-à-dire ce que les gens peuvent voir de leur maison ou de leurs immeubles en passant au-dessus de Wimbledon, ça ne gêne en rien. Alors qu'à Roland-Garros, tous les immeubles qui sont autour vont te foutre un bordel sans nom, parce que tout d'un coup, on va leur enlever leur arbre du bois de Boulogne. Ils vont plus les voir. Il y a le petit cours de 3000 places qu'ils ont mis complètement à l'ouest de Roland-Garros, qui est normalement prévu sur un stade municipal.
Là où il y avait c'était juste après le 16-17, tout au bout du stade, là où actuellement il y a des terrains municipaux de la mairie de Paris. Voilà.
Ils vont mettre un cours de 3000 places environ. Ça passera pas. C'est impossible. Ça va être une guerre sans nom. Ça va durer des années et des années.
C'est tout près du rond-point du Bois de Boulogne, ça.
Je comprends
tout
au bout. Là, pour le coup.
Et après, ils ont prévu ce fameux cours à demi enterré dans les serres d'Auteuil, pourquoi pas, dans le jardin des serres d'Auteuil, ça n'a rien à voir, dans le jardin des serres d'Auteuil, c'est tout à fait possible ça, ça gêne en rien les serres d'Auteuil, mais en revanche, tout le côté traversant du public et l'espace relation publique se ferait dans les jardins des serres d'Auteuil, là où il y a les serres, où on n'a pas le droit, c'est dans la loi. Ils n'ont pas le droit de mettre une quelconque marque de pub dans ces endroits-là, puisque, comment on appelle ça ?
Eh bien, on invente le sponsoring sans sponsor.
Ouais, c'est les événements, les événements nationaux, les monuments nationaux. T'as pas le droit de mettre de pub là-dedans. Comment ils vont faire, les annonceurs, dans leur village de merde, s'ils peuvent pas mettre leur nom avec leur coupe de champagne ? Mais non, mais je suis pour Roland-Garros. J'adore Roland-Garros.
Moi aussi.
Mais c'est impossible.
Ça va être tout en long, parce que du rond-point pour aller jusqu'au serre, hein. C'est pas très grave.
Mais ça va être de recours en recours.
C'est ça le risque, hein, c'est qu'il y ait des recours effectivement un petit peu partout.
Ce qui est également le risque pour Versailles. Était moins le cas à Marne-la-Vallée.
Ouais, moins le cas à Marne-la-Vallée.
Et cela dit, quand tu vois que Gonesse était en face de Ikea sur la 1, ça fait pas rêver. Chez Mickey, c'était à 50 bornes. Ça fait pas non plus rêver.
Ça fait pas rêver.
À rigueur, c'était Versailles, mais Versailles.
C'est pour ça que les élus étaient attirés par le projet de Versailles,
attendez,
parce qu'il y avait un côté prestige.
Attendez, ça fait pas rêver parce que.
Attends, je vais faire mes cours chez Ikea, je reviens.
Non, mais attendez. Le truc, c'est que les gens de la Fédé à qui on parle, ils habitent tous à l'ouest, donc ils voulaient Versailles. Après, les gens qui votent, c'est pas les mêmes, hein, que les gens qui y travaillent. Ensuite, Flushing Meadows, c'est super loin de Manhattan au départ.
Il y a une heure de route.
On passait, plus maintenant parce qu'il y a le tunnel, mais enfin, on passait par des endroits, à un moment, il y avait encore des types qui se tiraient dessus à coups de gueule. Hein. Moi, j'ai des anecdotes si vous voulez. Donc, voilà. Et puis, on traverse des zones avec des magasins ou Ikea, si vous voulez. C'est quand même du grand luxe à côté. Donc,
merci, c'est pas une raison.
Eh non, mais moi, je suis d'accord. Je suis super contente d'être à Roland-Garros. Mais il y a un moment, le problème, c'est qu'il y a la concurrence de l'Asie, des Émirats.
Bon, la seule concurrence qu'on peut craindre, c'est le Qatar.
Mais attendez,
c'est la seule vraie concurrence. Mais,
bah non.
Et la concurrence de quoi ?
Bah si le Qatar décide demain de vouloir un grand chelem, ils ont déjà tout. Non, ils ont les championnats du monde de rugby, ils ont la coupe du monde. Ils ont rigolé quoi.
Il vaut jamais enlever un grand chelem.
Non mais attendez, le Qatar.
Mais déjà c'est l'Europe.
Le Qatar
c'est
s'il décide un truc.
Pas
le
Qatar
il devait pas avoir la coupe du monde de foot, ils l'ont eu.
Mais non,
ils ont les JO 2018 d'hiver aussi.
Ils ont les JO, hein. Ils ont les championnats du monde de rugby alors qu'ils ont même pas d'équipe.
Mais vous avez craqué là.
Mais attendez, si.
Mais vous avez
un promoteur qui vient vous dire à la Fédération internationale, je vous fais une triple billetterie. On peut faire venir.
Mais là, c'est l'histoire du tennis. Tu vas
Beyoncé
pas aller
Beyoncé en concert pendant.
Si on fait les 3-8. Ouais, il propose les 3-8 du tennis.
Non, mais là, vous 24, pétez 24. Les plombs complets.
Non, mais pour moi, le seul risque, c'est Dakar. C'est pas Dakar du tout, c'est le Qatar. C'est le Qatar. Oui, ça, c'est en avril, c'est pour les vacances.
Toi, tu te vois le Qatar, en fait.
Non, je me vois plus. Ah non, le Qatar, surtout pas. Alors, ça va, c'est l'anti-sport par excellence. Non, merci, quoi.
Non, il y a l'Amérique, il y a l'Asie. Enfin, non, mais
non,
ça
mais ce
va
que
rester,
je veux dire, c'est il se passe quoi si, bon,
géographiquement parlant, ça va rester. Au pire, ça part en Europe, dans le pire des cas. Bah, ça va partir au Qatar.
Pourquoi le Moyen-Orient, ils n'ont pas
et
de.
Ben Madrid, ouais. Alors, mais si ça part.
Non, mais
Paris,
Madrid, avec leur hangar en tôle, là, ils peuvent toujours attendre. Hein. Alors,
non,
là,
mais ça restera à Paris, je ne suis pas du tout inquiète.
Bon, bah, j'espère.
Bah, j'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut. Parce
j'espère.
Que, voilà.
C'est compliqué. Bon. Allez, je voudrais qu'on écoute quand même l'avis du numéro 1 français, Joe Wilfried Tsonga. Fait content ou pas de rester à Roland-Garros, Joey Fritzson? Oui, il est plus numéro un français. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, il est numéro un français. Alors c'est le leader de l'équipe de France, mais c'est vrai qu'il n'est plus numéro un. Vous avez raison, Myrti. Qui lui, bah vous allez voir, il se mouille pas trop. Malgré une fois que le vote a été fait, bah il se mouille pas trop.
c'est vrai que c'est un endroit mythique. La porte d'Auteuil, elle est vraiment sacrée pour nous. Non, ça serait parti ailleurs. C'est vrai que ça aurait pas été forcément sans regret parce que ça nous aurait permis d'avoir un stade tout nouveau, tout beau, tout neuf, avec vraiment des installations au top. Maintenant, moi, j'avais un avis un peu partagé. Mais c'est super. C'est vrai que si les installations sont vraiment à la hauteur de ce que font les autres grands chelems, je pense qu'on peut avoir le meilleur des grands chelems à Paris.
Joe Wilfried Tsonga au micro de Cyprien Sini, c'était après sa finale de Rotterdam. On l'entendra d'ailleurs sur cette finale de Rotterdam un peu plus tard dans l'émission. Bon, Joe, de toute façon, il nous avait dit que lui, s'il y avait déménagement dans un autre stade, probablement qu'il jouerait plus à cette époque-là. Ça, c'était avant le vote. Donc voilà, bon, se mouille pas, quoi.
Non, après.
Ça n'a aucun intérêt. C'est comme si tu demandais à un élève de maternelle s'il va faire plus tard. Ils savent même pas les dossiers, rien du tout. Enfin, bon.
Bah voilà. Donc, Joe Wilfried Tsonga serait un élève de maternelle. J'essaie de visualiser la chose. Hein. Costaud, quand même, le garçon en avance. Hein. Costaud, le gamin de maternelle.
J'adore.
Tu ne nourris
le
pas.
Le mec, il joue au tennis, il tape dans une balle et tu vas le voir. Tu lui dis, tu veux rester à Roland Garros?
Nadal, il t'a bien dit, moi, je veux rester à Roland Garros.
Bah oui.
Mais quoi ?
Je suis vraiment d'accord avec Benoît là.
D'accord, les joueurs n'ont pas leur mot à dire.
Tu poses la question comme si c'est pas qu'ils n'ont pas leur mot à dire, c'est que tu sens que dans sa réponse il a aucun avis quoi.
Bah, c'est grave je trouve. Hein. C'est
bah ouais,
le
mec
mais s'en fout.
Pas, je te dis pas que c'est bien, mais c'est quand même ouais.
Le mec il s'en fiche.
Mais non, il s'en fiche pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il réponde ? Il a aucun moyen. C'est pas lui qui va décider de là où va se trouver Roland Garros.
Et alors ça l'empêche,
attends,
ça l'empêche de donner son avis ?
Nous non plus. Attends, donne notre avis. C'est pas nous qui décidons.
Bah oui, ça l'empêche pas de donner son avis. Il peut avoir des arguments, non ?
Ouais.
Non,
t'as Mickey plutôt là qui s'occupe de tout à la Fédé là, voilà, ils ont décidé que c'était ça, voilà.
Mickey plutôt,
ok.
Mais ils ont fait un vote, non mais c'est n'importe
non, alors,
quoi.
Ce qui est plus surprenant, c'est ça.
La Marne-la-Vallée, ils arrivent jamais, ça arrive effectivement deuxième, mais c'est un faux vote. C'est Versailles qui arrive normalement en second. Mais comme le projet était canon sur le Marne-la-Vallée, il est obligé de terminer deuxième. Mais c'est.
Ce qui est plus étonnant, en effet, c'est qu'au deuxième tour, donc au premier tour, Gonesse est éliminé extrêmement facilement avec 3% des voix. Au deuxième tour, c'est là que c'est plus surprenant. Marne-la-Vallée arrive devant Versailles à 21 et 14% et élimine de ce fait Versailles. Alors qu'on s'attendait éventuellement à une finale Paris-Versailles.
La finale Paris-Versailles, mais c'est passé des votes. Attends. Ouais.
Alors Versailles, on a expliqué la semaine dernière dans Carrément Tennis qu'il y avait eu cette note blanche pour torpiller ce dossier, avec voilà les monuments de France depuis le château, etc.
Patrimoine de l'UNESCO,
des recours, il y en a sur les cierges d'Auteuil, il y en a sur le toit de Roland Garros, pareil.
Là, c'était autrement plus compliqué, puis il y avait une histoire de transport aussi quand même. Hein. Déjà transport, il y avait le château, il faut pas voir plus de tant de mètres que ça. Enfin bon, je pense que vraiment c'était compliqué.
Et réhabiliter une gare, une voie.
Et c'était possiblement livré peut-être en 2018. Attends.
Et je repense au truc des sponsors là, dans les bâtiments de France, on n'a pas le droit, mais ça aurait été pareil à Versailles, parce qu'on envisageait toutes les cérémonies, les soirées, les événements dans le château carrément, si Roland Garros était devant ça. Ah, c'était possible
ça. Ça aurait claqué, c'est bon ça. C'était classe quoi. Non mais franchement, ça aurait été classe.
Ça aurait été très très classe.
Non mais
imagine David Guetta en train de mixer dans le
Palais des Glaces.
Au Palais des Glaces.
C'est le château de Versailles, c'est canon.
Oui, je sais que ça existe. Ça aurait été canon.
Non mais ça aurait été canon tout simplement.
Avec un concert de Nolwenn Leroy dans la chapelle.
On aurait pété les plombs dans le château.
De son disque breton ou pas?
Ah bah écoutez, on aura peut-être sorti un autre dossier là.
Bon, je vous sens extrêmement partagé sur ce dossier de Roland Garros. Bon voilà.
Mais non mais on est super content que ça reste.
Moi je trouve que c'est bien quand même. C'est l'identité française, c'est l'histoire. Et il y en a ras le bol de ces.
On va pas refaire le truc sur nous, on est conservateurs. Voilà, on n'est pas très ambitieux.
Ouais, je suis vieux réel.
C'est pas ambitieux du tout. C'est pas ambitieux, ça c'est clair.
Prends pas de risques, je veux dire en général, prendre risque. Inconsidéré. Donc c'est à l'image du français, je trouve, de rester à Roland.
C'est vrai. Bon, Roland-Garros reste en tout cas à Paris, porte d'Auteuil, élargissement du stade. On verra avec les recours, normalement, prévision pour 2015, hein, si tout va bien. 2016, si c'est un peu de retard.
De toute façon, comme l'a dit Gilbert Rizet, de toute façon, là, on reste chez nous, même s'il n'y a aucun travaux. Voilà, il n'y a aucun travaux en 2015 ou 2016.
Bon, s'il n'y a pas de
travaux. S'il y avait eu déménagement, non mais ou très peu,
oui.
S'il y avait eu déménagement, là, il fallait quand même pouvoir accueillir convenablement tout le monde.
Like this. RTL l'équipe, stop this. Carrément tennis.
Allez, avant de partir, juste après les infos sur les différents tournois, notamment l'Open 13, de revenir sur Rotterdam et de parler des filles, la course au numéro 1 et le mano à mano entre Kim Clijsters et Caroline Wozniacki. Un petit mot juste sur l'identité du nouveau coach de Richard Gasquet qu'on a appris cette semaine après la nomination d'Éric De Blicquer au poste de directeur général délégué du Racing. Il ne pouvait plus donc s'occuper à plein temps de Richard Gasquet. Alors on sait qu'il a un nouveau conseiller, Sébastien Grosjean, avec qui il travaille d'ailleurs en ce moment et avec qui il devrait travailler sur la tournée américaine Indian Wells Miami. Mais à partir de Monte Carlo et pour toute la saison sur terre battue jusqu'à Wimbledon, c'est Riccardo Piatti, l'Italien, qui s'occupera de Richard Gasquet, toujours avec Sébastien Grosjean comme conseiller. Riccardo Piatti, l'actuel coach d'Ivan Ljubicic, le Croate, qui l'avait emmené à la troisième place mondiale et qui est également le coach, non pas des débuts, mais de la transition de début de carrière professionnelle de Novak Djokovic. Alors, énième changement d'entraîneur pour Richard Gasquet. On va être très prudent, Julien Varlet, mais choix un peu différent.
C'est pas la question d'être prudent. Il y a deux choses. La première, c'est que pour le coup, Riccardo Piatti est vraiment un très 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 bon entraîneur qui a beaucoup d'expérience, ça c'est indéniable. Après, faut dire ce qui est. Si Richard veut pas se mettre des coups de pied au cul et qu'il veut rester dans sa façon de jouer et d'être comme il est, voilà, il a beau avoir Pete Sampras, Becker, Borg avec lui, ça changera strictement rien. Donc après, c'est une volonté personnelle. S'il a pas cette volonté personnelle, voilà. Après, je pense que voilà, il tente quelque chose à Riccardo Piatti, pourquoi pas. Je pense que pour en avoir discuté avec Seb Grosjean il y a deux jours, il me dit que Richard s'entraîne bien et tout ça. Et oui, ben
comme lui s'entraînait bien avant.
Je pense que Richard s'entraîne très bien, mais à un moment, voilà, c'est tout. Ce n'est que sa volonté. S'il veut aller vers l'avant, s'il veut progresser, voilà, il faut qu'il il faut qu'il se mette des coups de pied aux fesses. C'est pas en prenant n'importe quel entraîneur.
Non, elles sont en train de me fusiller du regard parce que j'ai dit comme lui auparavant. Parce que c'est attendez, c'est lui-même qui en fait référence.
Il était troisième mondial le mec.
Je dis ça pourquoi? Parce que lui-même, Sébastien Grosjean, lui-même dans l'équipe d'hier raconte cette anecdote où on lui reprochait de pas assez s'entraîner et qu'un jour un journaliste de l'équipe et d'ailleurs une équipe de France Télévisions était venu aux États-Unis le voir s'entraîner et on avait vu un reportage avec la méga séance de muscu et tout. On le sait tous que Sébastien Grosjean n'était pas un gros accro de l'entraînement. En effet, ça l'a pas empêché d'arriver quatrième mondial.
J'imagine pas, mais c'est pas grave. Sur toute une année, mais il était quatrième. Je veux bien.
Non,
mais
ça a jamais été un mordu d'entraînement. Me racontez
importe,
pas non
moi,
plus.
Ce que je vois, c'est le résultat.
Mais t'es un grand
c'est le résultat.
Mais je suis d'accord avec vous.
C'est le résultat. Le mec est pas arrivé quatrième comme ça par en claquant.
Mais je suis d'accord avec vous, sauf que quand Sébastien Grosjean te dit Richard Gasquet bosse super bien, super dur à l'entraînement, je m'en fiche qu'il me dise ça parce que je sais très bien.
Il va pas dire, faut pas une nom.
Ben voilà, moi je préfère qu'il me parle de son coup droit, tu vois.
Alors par contre, je comprends pas, je croyais que c'était Sébastien. J'ai loupé un épisode, je croyais que c'était allait être Seb qui allait s'en occuper.
Oui, mais Seb, tu imagines qu'il va te faire de Monte Carlo à Wimbledon 4 mois
d'Orange. Faut demander à notre ami d'Orange.
Mais Seb, il peut pas, il est consultant sur Orange Sport. Il peut pas, il a pas
par
le droit.
Par contre, il y a un truc où c'est fabuleux, il paraît qu'il est top, cet entraîneur italien, c'est top, mais pourquoi il commence pas maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi il commence pas Indian Wells?
Si, ils vont à Indian Wells, normalement, si j'ai bien compris, ils vont commencer
en
à
fait,
se parler.
Si tu veux, il va l'observer quelques semaines. Et après, comme Ljubicic, qui a donné son accord pour fonctionner en binôme avec Richard Gasquet, lui, de Monte Carlo à Wimbledon, ils ont exactement le même programme, c'est-à-dire Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome, Roland et Wim. Donc là, Piatti va vraiment être avec les deux tout le temps, sur toute la tournée terre battue notamment.
Non, mais de toute façon, il se voit déjà là. Hein.
Ils se sont vus à Zagreb. Enfin, c'est à Zagreb
que c'est... Il se voit là, à Marseille, là, il se voit.
Quoi, il se voit?
Non, enfin, il se voit. Ils sont
mais non, mais Richard, il joue pas. Richard, il est à Paris, il s'entraîne dans ce moment.
Oui, non, mais ils se téléphonent, ils se parlent. Ils sont pas, voilà, à attendre une date. Ça parle déjà.
Oui, mais le calendrier est quand même, voilà, sur Monte Carlo pour vraiment commencer à bosser ensemble officiellement.
Bon, je te l'ai dit, une fois de plus, ça va durer 6 mois. Et puis, voilà.
Mais Piatti...
Non, après, je sais pas. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ce que dit Julien sur Piatti. Piatti n'est pas là pour parler de son coup droit et compagnie.
C'est Grosjean qui peut parler de son coup droit.
Non, mais t'as dit, ouais, mais ça, voilà, s'il faut lui mettre des coups de pied aux fesses et tout ça. Et Piatti, il est pas du tout là-dedans, il a jamais bossé comme
je
ça.
Je n'ai pas dit ça, mon petit Benoît. J'ai dit que si Richard Gasquet voulait revenir à son meilleur niveau top 10, ça, c'est à lui de se mettre des coups de pied au cul. J'ai pas dit que c'est à son entraîneur. C'est tout.
C'est pas avec Piatti qui va mettre ça en place. Avec Piatti, ça a rien à voir. Justement, lui, il est là pour essayer de faire en sorte que ce gamin ressemble à... Bah, ressemble à un mec de son âge, quoi, tu vois, qui soit pas enfermé dans sa coquille d'huître, là, et qu'il essaye de vivre, d'être heureux, de se mettre un petit peu en confiance, de s'éclater dans sa vie, de se découvrir, tu vois, pas rester bloqué à l'âge, on va dire, mental d'un escargot de Bourgogne. Donc, à partir de là, s'il arrive à véritablement que Gasquet se révèle à lui-même et puisse véritablement grandir, comme il l'a fait avec Ljubicic, qui était aussi quelqu'un de très introverti à la base, bah, why not?
Et pourquoi pas l'expérience d'Ivan Ljubicic, qui pourra peut-être aider aussi Richard Gasquet à prendre conscience qu'il a une grande chance d'être là à son âge et d'être si talentueux.
De toute façon, Varley, il dit que des bêtises.
Mais ça va pas dire des choses comme ça, oui. Bon, allez, vous prendre.
T'as bien la chance d'être de l'autre côté de la scène parce que je peux te dire que c'était à côté
mais
de moi.
Mais c'est quand on t'envoie l'invitation là pour la terrasse à 360 là.
Ouais, on arrive.
Non,
pour...
non, hey. On n'accepte pas les gens du peuple.
Allez réserver le déjeuner. Mais on vous laisse 3 minutes pour prendre le café, nous réserver une table sur la terrasse pour tout à l'heure 13h. En attendant, c'est les infos.
RTL l'équipe. Trois courtes gagnantes. Carrément tennis. Superbe attaque de couloir. Eric Silvestro.
Nous sommes toujours ensemble pour Carrément Tennis, la deuxième partie jusqu'à midi et demi, toute l'actualité du tennis. Avec Julien Varlet, avec Émilie Lois, avec Myrtille Rambion et avec Orange Juice, monsieur Benoît Mélin depuis sa terrasse de Cognac. J'ai pas de Carole Bouchard cette semaine qui est en pleine interview à l'Open 13 de Marseille pour l'équipe. .fr Marseille, c'est justement la direction qu'on va prendre pour parler de cette Open 13 dans la deuxième partie de l'émission. On reviendra également sur le tournoi de Rotterdam, tournoi ATP 500 remporté par Robin Söderling, le Suédois, en finale face à Joe Wilfried Tsonga. Et puis les filles, on fera le point sur la course à la place de numéro 1 entre Wozniacki et Kleister. Je m'étouffe, ça arrive de temps en temps, c'est les vacances, j'ai plus l'habitude de parler dans le micro. La deuxième partie de Carrément Tennis donc tout de suite.
RTL l'équipe, Carrément Tennis.
Ah, l'Open 13, Marseille, la mer, le soleil, mes petits tournois de plage, comme dit Benoît Mélin 250. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui.
Non, Benoît va plus le dire.
Ah, Benoît?
Que quoi?
250, Marseille, c'est un tournoi de plage?
Bah ouais.
Voilà.
Non, et mais les non. 500?
Les 500, c'est les tournois quoi?
Oh bah, celui de Memphis, c'est pas un tournoi de plage, mais c'est un tournoi de fleuve, quoi.
Un tournoi de fleuve. D'accord, Rotterdam.
À côté du Tennessee, le tableau de Marseille est aussi sympa à suivre que Memphis. Bah, si on est français, quoi. Mais
c'est vrai,
voilà.
Le tableau est sympa avec Robin Söderling, tête de série numéro 1, Berdych, tête de série numéro 2, Yuzny 3, Melzer 4, Ljubicic 5, Tsonga 6. On a qui d'autre? Il est où le 7? J'ai perdu le 7. Il est où le 7? C'était Gulbis, il a perdu. Et le 8, c'est Mickaël Laudra, le tenant du titre. Bon, voilà, il y a du français, il y a du Simon, il y a du Tsonga, il y a du Laudra, tout ça, on a envie de voir, Benoît.
Bah bien sûr, bah un peu hein, qu'on a envie de voir.
Tsonga est en cas.
Je suis curieux de savoir qui va battre Söderling.
Ah, en indoor, c'est dur, hein, Söderling.
Ah,
il a été impérial à Rotterdam, on y reviendra tout à l'heure. Il enchaîne avec Marseille, Julien Varlet. Tsonga est en quart. Ça a été dur, hein, hier contre Stakowski, l'Ukrainien. Et il attend le vainqueur de Simon Yuzny pour jouer demain son quart de finale.
Ouais, pour Joe, les gens de joueurs un peu comme Söderling qui frappe très fort, qui au contraire lui laisse aucun temps. Il aime pas trop. Et il aime pas trop aussi les joueurs un peu comme Stakowski. Alors certes, qui est un peu moins fort que lui, mais qui viennent un peu au filet, qui viennent lui casser le rythme. Mais voilà, après, il a eu le don de s'en sortir. C'est déjà pas mal. Et surtout, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il enchaîne. Il fait finale à Rotterdam. Là, il est déjà en quart. Ça prouve que physiquement, il tient. Donc maintenant, voilà, son jeu va se mettre de plus en plus en place. Donc c'est plutôt de bon augure. Après, on verra en quart s'il joue contre Gilou Simon ou contre Yuzny.
Le corps a l'air de tenir, Benoît Mélin, pour Joe Tsonga. En effet, comme l'a dit Julien, il enchaîne. L'indoor, c'est quand même aussi fait pour lui, hein, Joe. Hein.
Oui, enfin, on rappelle qu'à Rotterdam, il a joué son huitième de finale contre Liodra le mercredi. Et il n'a pas rejoué avant sa demi le samedi. Hein. Donc physiquement, l'enchaînement, il est quand même...
Cours.
Ça va, quoi.
Pas
mortel, hein. Même la finale en 3-7 contre Söderling, ça n'a pas dépassé une heure et demie. Il n'y a rien eu de violent physiquement. Mais c'est vrai qu'en parlant avec Vino, Gratzky et tout ça, parce qu'il y a Michel Franco maintenant qui est aussi à
l'ancien kiné d'Amélie Mauresmo et de l'AS Monaco.
Voilà, ouais, qui va rester avec lui tout au long de l'année. Et tous les deux sont quand même super angoissants puisqu'ils te disent qu'à n'importe quel moment, mais à n'importe quel moment, le genou gauche peut lâcher. Mais pas lâcher fissure, peut lâcher quoi, c'est-à-dire carrière terminée.
Non, mais sois un peu plus précis parce que là j'ai un peu de mal à...
Comment ça, le genou gauche peut lâcher?
Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se fait triple entorse, les croisés, la totale et tout ça?
Non mais les croisés, ça peut lâcher chez n'importe qui à n'importe quel moment, hein, les croisés.
Parce qu'apparemment, en fait, le problème, c'est que depuis la... Merde, l'hernie discale en 2005... il a sans arrêt été obligé de compenser parce que son côté droit le lâchait régulièrement, que ce soit l'épaule, que ce soit le genou droit, que ce soit même toutes les problèmes de dos et d'abdos étaient toujours côté droit. Et donc en fait, à chaque fois qu'il revenait et qu'il voulait compenser et qu'il fallait bosser pour attraper son temps de retard, tout se portait sur son côté gauche. Et bien évidemment, comme c'est quand même un gars qui est pas très léger, le genou gauche prenait sans arrêt. Mais il a tenu. Et puis malheureusement, il a lâché l'année dernière, tout le monde s'en souvient. Et il paraît que ce genou gauche, il est d'une fragilité, mais absolue. Et qu'il y a une angoisse totale. Ils ne savent pas. Alors ils se disent qu'il va falloir qu'il fasse un calendrier, mais quasiment de, tu sais, de mec d'athlétisme. C'est-à-dire 3-4 gros rendez-vous dans l'année, point, qu'on essaye de mettre en place. Et le reste, on peut pas, sinon il va exploser. Quoi.
Ouais, mais alors, ok, pourquoi pas? C'est peut-être aussi pour ça qu'il disait qu'en 2015 ou 2016, ça le concernerait pas le déménagement à Roland-Garros.
Parce qu'il sera pas bien.
Il se dit qu'il sera. Ouais, et... mais ah, alors, si c'est 3-4 rendez-vous phares dans l'année et point barre, comment tu peux enchaîner Rotterdam et Marseille 500 et 250 juste avant des Master 1000 aux États-Unis? Ça colle pas avec la théorie.
Ah, mais j'en sais rien. Moi, je sais pas ce qu'ils sont. Mais. Après, c'est un joueur aussi de son gars. Tu vas pas lui dire, attends, Pépère, t'es gentil, mais tu vas jouer que deux fois dans l'année. Le mec, il joue, il est pas blessé, il a envie de matcher, quoi, tu vois.
Ouais.
Ça doit être un peu compliqué à gérer, cette situation. Mais apparemment, c'est pas simple, quoi.
Je pense qu'il faut vraiment qu'il allège son. Malheureusement pour Roland-Garros, mais qu'il allège sa saison sur Terre.
Bah déjà, faut pas
qu'il dit que c'est un joueur de terre qui veut bien jouer sur terre. Enfin, je crois, je pense
pas. Il essaye de se convaincre qu'il peut, mais.
Ouais, ça c'est clair. À mon avis, faut que ce soit un peu sa trêve.
Ouais, mais le problème, ça trêve, d'accord. Le gazon, on peut pas dire non plus, même s'il est puissant, que ça soit son truc. Donc en fait, Joe, c'est un joueur de dur, quoi.
Ouais, mais de toute façon, le gazon, ça dure 3 semaines. Donc au pire, ça dure 15
ou
jours.
Gazon,
ça dure 3 semaines.
Non, c'est malheureusement, c'est la tournée américaine est super traumatisante aussi l'été, là. Non, mais enfin.
Bah, non, mais par exemple.
C'est terrible à dire parce qu'il a 25 balais. Mais malheureusement, il a déjà le corps d'un Ljubicic qui est obligé de cibler sa saison sur février et sur octobre-novembre.
Oui, mais Ljubicic est un vrai joueur d'indoor. Il n'a plus la capacité pour aller très loin en Grand Chelem ou dans les Master 1000 parce qu'il fait son âge, etc. Donc il cible justement des tournois comme ça, Rotterdam, Marseille, en indoor, où il y a un peu moins de monde. Pour son gars, je trouve que ça tient pas. Parce que pour moi, c'est clair, c'est sur dur qu'il est le plus fort. T'as Indian Wells Miami qui va arriver en mars. Et tu t'enquilles, je sais pas combien de matchs en février, dans des tournois indoor, on va dire... entre guillemets secondaire. Donc ça colle pas.
Tu peux pas. Attends, tu te rends compte que ce mec n'a pas joué depuis. J'ai presque envie de dire depuis Roland Garros contre Yuzny. Il est revenu, il a fait des trucs, d'accord. Mais bon, on va dire que sur le fond de jeu, il a pas joué depuis Roland Garros. Et tout d'un coup, tu vas lui dire, attends Pépère, ok, mais là, faut qu'on cible notre saison. Et on va revenir que pour Indian Wells. Il est mort.
Ouais, non,
mais... il peut pas.
Eh oui, mais donc tu peux pas mettre en adéquation ta théorie du genou machin qu'il faut préserver avec le fait de dire le gars, il faut qu'il joue, quoi.
C'est pour ça que je pense que c'est très compliqué, parce que c'est quasiment impossible à mettre en place dans une saison de tennis. C'est pas possible.
Julien ?
Non, même s'il a la capacité de très bien jouer rapidement, ça devient vraiment un casse-tête. Si Benoît dit la vérité, sa carrière elle va être difficile à gérer, quoi, parce que.
Depuis le début. Hein.
Mais ça, c'est pas vraiment une surprise, voilà. C'est depuis le début, là.
De plus en plus, quoi.
Oui, mais sauf que là, il est potentiellement top 10, voilà, tranquille. Donc après, on se met à rêver, nous, on le voit tous, toujours en demi-finale des tournois Grand Chelem. Mais pour y arriver, il faut quand même avoir joué avant, quoi, tu vois. Il faut avoir un peu de fond, quoi.
Tranquille,
je trouve pas si bon que ça, moi.
Tranquille, top 10, je suis assez d'accord avec Émilie. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs,
comme
qu'il joue...
Comme beaucoup de lacunes, à mon avis, qu'il n'arrive pas à combler encore, parce qu'il
peut pas
suffisamment
bosser.
S'entraîner. Bah ouais, je finis ma phrase.
Laisse finir la phrase d'Emilie, enfin, Benoît, s'il te plaît.
C'est pour ça que top 10, faut qu'il puisse s'entraîner régulièrement et tout le temps.
Est-ce que l'explication n'est pas là, d'ailleurs, de tout cet enchaînement de tournois dès qu'il peut jouer? Parce que, comme il est pas loin du top 10, mais il y rentre quand même pas si facilement que ça, c'est aussi en allant grappiller des points un peu partout qu'il peut s'intercaler et venir gagner quelques places.
De toute façon, sa programmation, elle est super dure parce qu'à la fois, il est tout le temps blessé. Alors, est-ce qu'il refait une période d'entraînement qui est relativement longue? S'il fait une période d'entraînement longue, il est pas exclu qu'il se blesse pas à la fin de sa période d'entraînement, c'est compliqué. Qu'il aille faire des matchs, je le comprends un peu. Puis là, Marseille, il est obligé d'aller jouer à Marseille, il doit prendre une belle garantie.
Oui, Marseille, c'est la France, il y a une belle garantie. Ouais. Il a même expliqué qu'il avait toute sa famille.
Je peux rajouter une louche ou pas?
Bien sûr.
Parce que le truc, c'est qu'à Rotterdam, il y a Stéphane Florissien qui suit pour nous tous les mecs sur le circuit, et il est allé à chaque fois à ses entraînements. Puis à un moment, il a demandé à Vinogradsky, parce que tu vois les images. Même Marie Pierce, elle courait plus vite à l'entraînement. Et je peux dire que Marie Pierce, quand tu la voyais à l'entraînement, t'avais peur. Même ma grand-mère, elle aurait fait son entraînement. Et ben, le truc, c'est que Joe Wilfried Tsonga, il ne peut pas, faire un entraînement à fond. Il peut pas. Donc, c'est même pas un 35 tonnes. C'est un truc d'une lourdeur absolue qui rentre petit à petit en condition physique pour essayer d'être un peu chaud. Pour essayer d'entretenir un physique. Mais y a rien. Et après, il va matcher. Voilà. Sur le match, allons-y. Mais, il n'a pas le droit de servir à fond tout au long d'un match. Il doit gérer sa capacité à pouvoir balancer son pruneau au moment important, mais pas tout le temps. sinon à un moment il va y avoir un problème à l'épaule, tu te dis mais c'est dingue, c'est Ramsès II le mec quoi.
Ouais mais c'est fini donc, c'est fini, enfin, là, vous êtes en train de nous décrire un truc où le mec vous jouez.
On a le moral.
Moi je pense que c'est impossible, c'est impossible pour lui.
Ah.
Moi je pense, par rapport à ce que vous dites, moi je pense que rentrer dans le top 10, il rentrera même plus dans le top 10. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut quand même pouvoir enchaîner beaucoup de tournois. Et s'il ne peut pas jouer ces tournois-là...
Non, et surtout, ce que vous nous dites, bah, ça fait penser direct à l'Australie, je trouve. Et à ce match où on n'a pas bien compris, où on l'a vu ne pas bien se déplacer. Lui disait qu'il n'y avait pas de problème après. Mais on avait bien vu que le match d'avant, il avait la hanche qui couinait, comme il disait. Donc si c'est plus que ça, bah, ça risque d'être très compliqué.
Mais après, il ne faut pas oublier que... À la base, c'est un joueur qui est super puissant, donc automatiquement, sa façon de jouer plus sa puissance, il va toujours avoir des douleurs à droite à gauche. Et puis, mine de rien, l'enchaînement des matchs, même si un joueur s'entraîne bien, il n'y a rien de plus dur que l'enchaînement des parties. Donc,
un vent de
pour moi, Tsonga, c'est le copier-coller Marc-Philippe Houssis.
C'est pas faux.
Dis donc, c'est pas encore.
Non, pas faux.
Donc là, on va se jeter tout de suite dans la scène. C'est
un vent d'optimisme souffle aujourd'hui sur Carrément Tennis.
Mais t'as sûrement raison.
Nous, on continuera à faire du tennis, mais malheureusement, lui, je pense que lui, ça va être terrible, quoi.
Ah ouais.
Eh bien, bon, alors passons peut-être au cas Gilles Simon. Lui, il avait un torticolis à Rotterdam. Maintenant, ça va mieux. Gilles Simon.
Ah, je sais pas, je suis pas à Marseille, moi.
Bon, Gilles Simon, ça va mieux.
Bah moi je trouve qu'il fait son petit truc. Il revient tout doucement et puis
il a battu David Enko. Bon, si beaucoup de monde bat David Enko en ce moment.
Ouais, non, mais je pense même que sur la fin de saison, on verra en fin novembre. Je pense qu'il sera pas loin d'être le numéro 1 français. Donc je pense entre les 10 et 15 français. Mondiaux, pardon.
Premier français devant mon fils.
Ouais, je pense. Pas loin. Soit il sera juste derrière, soit il sera dedans.
Possible. Ouais, ça va être kiff.
En tout cas, je note quand même que tous les français, mais ça c'est pas nouveau, mais ça se confirme, ont des problèmes physiques tout le temps. Ton gars, Simon, mon fils, enfin, je veux dire, à un moment, on peut se poser des questions quand même. On n'est pas capable de les préparer physiquement, nos jeunes.
Ben, Dieu sait si logiquement la fédération maintenant fait de plus en plus de prévention sur les jeunes et tout ça, mais bon.
Je sais pas comment ça se passe en fait, parce qu'on est vraiment focus sur les Français, comment ça se passe avec les autres.
Ben déjà, c'est rare hein, les systèmes aussi pyramide.
Pas vas-y.
Do. Pyramido. Ouais, j'ai une petite hésitation. Oh là, j'en fais une énorme. Système pyramido comme en France. Il n'y en a pas tellement dans le monde. Je pense qu'on est, d'ailleurs, Marat Safin le disait, c'est vraiment l'exemple type, la France. Est-ce que les autres pays encadrent aussi bien, aussi longtemps et aussi lourdement les jeunes? Je ne suis pas sûr.
Non, mais je crois qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'on a une richesse de joueurs dans le top 300 qui est du niveau de l'Espagne. Et les Espagnols aussi, hein, ils sont souvent blessés. Après, les autres nations, d'accord, ils ont des joueurs, mais ils n'ont pas la flopée de joueurs qu'on a, quoi.
C'est vrai.
De toute façon, c'est la condition du sportif de haut niveau, malgré tout, d'être blessé. Je ne m'étais pas fait la réflexion qu'ils étaient forcément plus blessés que les autres.
Non, mais ça serait intéressant.
En parlant des blessures, d'ailleurs, ça va vous faire plaisir un petit coup. Apollo Mathieu, qui a retapé la balle à l'entraînement.
Ouais,
pour la première fois en 2011.
Ouais, bah,
mais alors, lui aussi, hein,
mais
alors,
c'est chiant parce
il retape la balle à l'entraînement 20 minutes avec son coach Thierry Champion, mais il a le genou qui gonfle toujours.
Ouais, c'est ça, ouais. Il a toujours d'eau dans le genou et tout ça.
C'est mort. S'il a de la synovie, l'inflammation dans le genou, c'est pas demain la veille qu'il va rejouer des matchs. Hein.
Puis en plus, il est suivi quand même par le docteur Montalvan qui prend énormément de précautions, donc Polo, c'est pas gagné. Quoi.
Ouais, c'est pas gagné non plus.
Ah bah, vous savez pourquoi mon fils a pris 6 semaines? Parce qu'il était en train de jouer San José. Et à ce moment-là, il y avait pendant 3 jours un congrès de toubib de chaque fédération qui était convoqué à San José. Bien évidemment, le doc Montalvan y est allé, voit Gaël Monfils. Gaël Monfils lui dit « Ah, j'ai une petite douleur au poignet depuis l'Open d'Australie. » Direct, bam, tu t'arrêtes 4 à 6 semaines minimum, hop, t'arrêtes de jouer. Et Monfils voulait pas. Il dit « Mais non, mais j'arrive à jouer, c'est bon, je peux taper. » Non, t'arrêtes, 6 semaines.
Puis le doc est aussi le médecin de l'équipe de Coupe Davis.
Voilà, ouais.
Alors la Coupe Davis c'est dans 15 jours mine de
mais
rien.
Il a arrêté 4 à 6 semaines.
Ouais. Oui. Bah déjà il est sûr de pas jouer Coupe Davis.
Cette Autriche-France justement c'est dans 15 jours maintenant, enfin 16 exactement puisque ce sera vendredi dans 2 semaines.
On est mal barré.
Premier tour en Autriche sur terre battue avec un Jürgen Melzer qui d'ailleurs est à Marseille et qui voilà débute sa saison plutôt correctement.
Bah, qui vient de gagner un titre en double. Hein, les Autrichiens.
Mon fils sans doute out. Les autres dans un état on sait pas trop. Quelle équipe pour ce premier tour de Coupe Davis?
Je les sens pas trop cette année, autant l'année dernière.
Ça bah, sent le Simon Gasquet canon. Là quand même, non? Sur les simples. Là,
Simon, il a pas l'air super même emballé si on a le premier tour déjà à la base.
Bah ouais, mais bon, Tsonga sur terre, c'est compliqué. Clément, il est quand même aux fraises de chez Fraise. Mon fils est forfait. Bennett, il a quand même du mal à se remettre de son
droit
de ses baguettes.
Trop pour Guy Forget.
Laudra. Comment, Émilie?
Je pense
Terre
que Nantes, malheureusement, c'est l'année de trop pour Guy Forget. Je sais pas pourquoi. J'ai un espèce de.
Ça va être dur ce premier tour, hein.
On a encore 15 jours, pas. Continuons
pas.
Ah oui,
pardon.
Ah oui, pardon. Mais,
on a le temps.
Ah ouais, mais attends, on peut pas en parler quand même. Non,
non, mais
de toute façon, mon fils est pas là.
Mais
non, mais faut...
Ah non, c'était. Ah, Marley, on a le temps. Hein.
Non, mais c'était une défense pour Émilie, parler un petit peu du GDF Suez. Après, maintenant, faites ce que vous voulez.
Ah ouais, c'est vrai.
Bon, alors la Coupe de Ligue, ce sera la semaine prochaine.
Voilà. Allez, c'est mieux.
Passons aux filles. Est-ce que vous voulez un jingle avant de passer aux filles pour que ce soit un peu plus officiel?
Bah oui.
Bah avec plaisir.
Allez, c'est parti.
RTL l'équipe. Carrément tennis.
Je fais une dernière parenthèse très courte, j'avais oublié. Non, quand même. L'histoire de Murray, là, qui déclare forfait à Dubaï après avoir balancé l'année dernière en disant.
Ah, on s'en fout de Murray. Ah, allez, Murray, pas de soucis.
Et Murray, c'est quand même dramatique, quoi, depuis la finale de l'Open d'Australie.
Non, mais Murray, je suis d'accord.
Mais il fait pareil l'année dernière, il fait ce qu'il veut.
Ah, non, l'année dernière, il y est allé, il a balancé.
Bah, voilà,
attends, il est
là,
mieux
il
cette année,
pas.
Attends, il y va pas. C'est plus classe.
Bah oui, c'est classe, il est très classe, Murray.
D'accord. Bon, alors. Bon, les filles, alors, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, les filles, l'Open GDF Suez, la victoire de Kvitova en finale face à Kim Clijsters. Kvitova dont on avait parlé déjà dès le premier tour la semaine dernière dans Carrément Tennis, une jeune fille qu'on voit aller assez haut et elle l'a confirmé là en faisant des matchs d'abord marathon, en s'arrachant dans les tours précédents, puis en collant une jolie petite raclée à Clijsters en finale qui était légèrement diminuée. Clijsters qui redevient numéro 1 mondial. Quel beau Open GDF Suez, Émilie Lowe.
L'exagération.
Bah non.
L'exagération. Par contre, elle va être dans le top 10, mais tranquillement.
Elle joue, hein. Très vite.
Elle joue, mais c'est un truc de malade.
Ouais, mais ça dépend comment elle va le gérer mentalement, ce petit truc-là. Parce que,
disons qu'elle a un problème, c'est qu'elle
elle
gère
hein.
pas bien au niveau de sa programmation. Elle est quand même allée jouer, après, elle a fait premier tour à Dubaï. Ouais. Elle devait être rincée complète.
Ouais, parce qu'elle a eu des sacrés matchs.
Elle a gagné
le premier
tournoi de la saison. Elle fait quart à l'Australian Open. Elle gagne là, le GDF, elle enchaîne deux jours après à Dubaï.
En plus, en extérieur, 6 heures de décalage, 6 heures de
voyage. Elle est complètement folle. Mais ça, c'est son seul problème. Mais
ça,
sinon,
c'est
un avion.
Elle joue là.
Milos Raonic, il le fait, hein, sans problème.
Non mais
ils sont jeunes, ils ont envie de prendre un peu d'argent.
Si ouais.
Son jeu, ouais,
ouais,
Myrtille.
Triste aux éditeurs qui n'ont pas vu, elle a un jeu super intéressant qui est quand même rare, on peut dire. Même si on commence, je trouve, à avoir arrivé des filles comme ça, elle a un service explosif, mais elle sert mais le plomb. Elle est gauchère. Hein. À gauche et à droite, ça part, mais à 15 000 à l'heure. Elle n'est pas mauvaise du tout au filet. Très beau jeu. Hein.
Et elle a un retour de service. Mais c'est un truc de malade. J'ai jamais vu une joueuse retourner
elle
aussi
joue
bien.
Super profond.
C'est
hein.
un
elle
truc.
Se trouve les angles.
Elle te met une pression
non,
au retour,
plus,
c'est incroyable.
Est...
Top.
Et vous êtes en train de nous décrire la future numéro 1 mondiale.
Non, c'est possible. Franchement, c'est possible.
En tout cas, elle en est loin,
mais elle a toutes les qualités, en tout cas, pour être numéro 1.
Et là, en plus, elle a joué à l'émotion hein, sur ce GDF Suez.
Est-ce qu'elle sait aussi être patiente?
Mais qu'est-ce que c'est, Eric? Tu coupes Myrtille alors qu'elle va te balancer une info de dingue.
Mais non, mais elle l'a pas caché. Elle a dédié à son grand-père parce que son grand-père était décédé la semaine d'avant. Et l'air de rien, c'est je pense que dans ces cas-là, on joue un peu comme si on n'avait rien à perdre. Donc ça a rajouté, c'est ce qui explique qu'elle se soit arrachée aussi. C'est une fille qui, malheureusement pour nous, ne s'étend pas, ne raconte pas grand-chose. Mais en termes de jeu, elle m'a bluffé comme peu m'avait bluffé depuis longtemps.
Pour avoir vu la finale, j'étais un peu déçu par contre de Clijsters.
Elle était blessée. Non, elle était fatiguée. Hein, de toute façon, moi, je suis même surprise qu'elle soit allée jusqu'en finale.
Ah bon?
Bah, elle voulait quand même récupérer cette place.
Disons que c'est vrai qu'elle avait pas une fin de dingue, quoi.
Non, elle était fatiguée.
Elle a vite
laissé
tomber.
Ah bah, sans aucune méchanceté pour l'Open GDF
retourne,
Suez. Quand t'as gagné l'Open d'Australie et que tu viens jouer le GDF Suez, forcément, bon, la priorité n'est pas la même.
Elle a bien joué le jeu. Le samedi, elle s'est bien arrachée, mais le dimanche, je pense que c'est quand même
tout à son honneur. Parce que je vous rappelle que si Clijsters décide au dernier moment qu'elle aussi, elle a la fièvre ou mal à une dent, c'est quand même la catastrophe.
Oui, parce que Maria Sharapova, moi, je l'ai croisée à Roland-Garros.
Ah, je croyais au bain-douche.
Non, en sortant des vestiaires. Mais
en sortant des vestiaires.
Et mais j'ai pas compris parce que je l'ai vu s'entraîner et tout ça allait et le lendemain boum.
Non.
Sharapova l'a déjà fait. Hein. En plus, elle a déjà fait à GDF ce genre de truc.
En 2005, elle avait même fait pire. C'était en 2005, elle avait fait une vidéoconférence d'avant-tournoi depuis sa chambre d'hôtel, depuis son lit.
Pour dire, je suis balade.
Oui, bah, je me souviens, je suis balade. Et là, on nous avait quand même préparé toute la semaine, hein, la semaine dernière, le forfait de Maria Sharapova. C'est pour ça, quand on nous l'a annoncé dans cette émission jeudi même. Oh, bah, la première, la conf de presse d'avant-tournoi qui se fait pas, qui est décalée d'heure en heure, puis de jour en jour, puis deux jours après. Et là, on nous sort le petit communiqué. Je me suis entraînée 10 minutes. Ouh, mais je vais faire tout ce qui est en mon possible pour être prête pour demain. On s'est dit, bon, bah, c'est bien bon, on se voit.
Je viens pas sur le site parce que j'ai un virus, je voudrais pas contaminer.
C'est ça, c'est gentil. C'est gentil de sa part.
Ça, bon, c'est énorme.
Bah, c'est les stars, attendez.
Mais toujours est-il que, effectivement, si Kim n'était pas venue, voilà. Mais elle a bien joué le jeu. Puis, l'air de rien, elle avait quand même sa place de numéro 1 mondial en jeu. Et même si elle disait que c'était pas essentiel pour elle, c'est un très, très bel accomplissement.
Alors, c'est un peu l'intérêt des semaines actuelles, hein, et des prochaines semaines sur le circuit féminin. C'est ce mano à mano, cette passe d'armes entre Wozniacki et Kleisters. Kleisters est repassé devant, donc en faisant finale à l'Open GDF Suez. Wozniacki peut reprendre la place numéro 1 cette semaine si elle gagne encore deux matchs à Dubaï. Bon, Kleisters, c'est la numéro 1 logique, vu ce qu'elle gagne, vu ce qu'elle dégage, vu ses résultats. Mais voilà, Wozniacki va s'accrocher aussi à ce titre honorifique.
Elle va s'accrocher, mais on fera le point au mois de juin, au moment de Roland Wimbledon. Si Kim fait une saison complète, d'après, elle a l'air de le dire qu'elle va faire une saison pleine et sa dernière, elle va terminer numéro 1.
Largement.
C'est... Mais largement.
Largement.
Oui, normalement, largement. Elle est au-dessus, donc...
Ah mais même, en plus je te rappelle que Wozniacki l'année dernière, elle a fait quand même une saison de dingue, hein. elle a pas gagné un petit tournoi, elle en a gagné des paquets.
Ouais, elle a joué quasiment toutes les semaines.
Donc elle peut pas reproduire ça, c'est pas physiquement, c'est pas possible. Donc
ça va être compliqué.
Et après une Kvitova par exemple qui est encore toute jeune, elle est bien meilleure que Wozniacki.
Ah oui.
Il va falloir voir sur la durée.
Elle a des coups gagnants elle au moins.
Voilà, elle sait faire plus de choses.
Ah bah, ça va,
mais après va savoir comment elle va. Il y en a eu tellement d'exemples comme ça. Comment ces jeunettes très fortes, très bonnes, très... vraiment, moi aussi je la trouve excellente, mais comment elle va vivre après ce statut de favorite dans les tournois qu'elle va jouer? Est-ce qu'elle va pas se mettre une pression idiote? Est-ce qu'elle va pas se crisper bêtement, perdre 3 mois, 4 mois, tomber dans un trou noir, rebosser pour revenir? Enfin, ça peut être très bien comme ça peut être dangereux.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'après il faut qu'elle confirme. Mais déjà, quand tu regardes son début de saison, elle gagne le premier tournoi, elle peut se mettre une petite pression pour arriver à l'Open d'Australie. Mais elle joue sans complexe à l'Open d'Australie, elle fait quart. On avait l'impression que même en 8e, elle faisait le premier tour du tournoi de Trifouille-les-Oies.
Oui, mais
et après, elle enchaîne quand même au gaz.
Trifouille-les-Oies, comme Yannick Mirabeau.
Elle est forcément attendue au GDF. Attends, mais elle te sort la finale contre la numéro 1 mondial comme si elle jouait une nana 2 ans, quoi.
C'est vrai.
Donc, mais effectivement, voilà, faut voir sur la durée. Ouais. Mais attends, là, elle a des qualités. J'ai rarement vu ça. Je cherche justement une comparaison. J'ai rarement vu une joueuse comme ça. Physiquement, en plus, elle est grande.
C'est un jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les filles.
Plus physique que Stosur ?
Oh non.
Bah, c'est pas pareil. Parce que c'est pas du tout la même morphologie. Ouais, donc,
ce serait plus une Azarenka, non, en termes de...
Ouais.
Avec un jeu beaucoup plus complet.
Oh, bah, ça n'a rien à voir, beaucoup plus solide.
Oui, non, mais je parlais physiquement.
Mais physiquement, oui.
Bah, physiquement, je pense que c'est le tremblement de terre Navratilova quand elle débarque sur le circuit à l'époque.
Bah, Navratilova, vous croyez pas si bien dire parce que c'est sa joueuse préférée. Donc
c'est vrai.
Je pense qu'elle s'en inspire.
Ouais.
Ouais, bien sûr, c'est sa joueuse préférée. Novotna et tout, elle s'en fiche complètement, mais Navratilova, et on comprend, c'est une fille quand même qui sert bien et qui va au filet, quoi.
Elle a slicé que deux ou trois fois, mais elle a un slice aussi qui est pas dégueulasse.
Ouais,
elle est entraînée par qui?
Je sais pas.
Mais elle s'entraîne à Prosteyov chez Thomas Berdy, chez Lucie Safarova.
Prosteyov, ils s'entraînent tous là-bas, mais alors
c'est mythique, c'est milieu des champs de patates, mais ils ont un très beau central avec toi, rétractable.
Non, mais le centre est très bien, mais
oui, bah c'est vite fait que tiens, je vais faire une balade.
Oui, mais au moins tu penses à rien d'autre que tennis.
Là, c'est sûr.
Non, c'est pas ça. Les gens boivent beaucoup là-bas aussi.
Oui, mais pas les joueurs.
Soit ils sont sportifs, soit ils sont alcooliques.
Je vois qu'on a tous le même souvenir de là-bas, donc c'est bien.
Oh, vous êtes dur, ouais, mais moi je pense un peu à la dure comme ça, avec rien autour. Peut-être qu'en France,
c'est
un peu trop
sportif d'enfer. Non, non, le club est beau. De basket, qui a un sauna, une soile de squash, enfin un truc incroyable.
Allez, espérons aussi de belles choses pour Maria Bartoli du côté de Dubaï cette semaine. Elle est débarrassée de ses béquilles, son mollet a l'air de tenir. Elle a passé son premier tour. Allez, pourquoi pas Marion?
Bah, il faudrait. Puis savoir aussi où en sont un peu nos sœurs Williams, parce qu'elles viennent de sortir du top 5 aussi, mine de rien.
Ouais,
donc
Williams,
on sait pas quand.
On désespère de les revoir.
Elles vont jouer à Miami,
ça,
non?
Ouais,
si elles jouent pas à Miami, alors là c'est que ça pue. Il y a un truc qui va pas et là elles vont pas faire la saison. Parce que Miami c'est
mauvaise.
Quand même leur tournoi.
Qu'est-ce qu'il y a, Benoît?
J'ai le coach de Kvitova.
Ah, allez-y.
Personnellement, moi, je le connais pas. Hein.
Ah bah voilà, on vous a dit ça.
C'est David Cotiza.
Ah oui.
Qui s'occupe aussi de Benezova.
Ouais.
Voilà. Okay.
Bon, merci Benoît.
On va sans doute apprendre à le connaître dans les prochaines semaines.
C'est ça Orange, tu vois, c'est cette instantanéité de l'info.
Allez, très bien, préparez l'apéro, on arrive. Merci à tous, Julien Marley, Benoît Mélin, Émilie Loi, Myrtille Rambion, d'avoir été avec nous pour évoquer l'actualité tennis de la semaine. Rendez-vous jeudi prochain. Bien sûr, on se rapprochera de la Coupe Davis, on aura donc le droit d'en parler un petit peu plus. À très bientôt sur l'antenne d'RTL, l'équipe.
RTL, l'équipe, la radio sport et info.